L'angoisse. Vous avez remarqué comme c'est passé dans le langage courant, c'est l'angoisse. Et c'est vrai que c'est une bonne expression, hein, l'angoisse. C'est autant ce qu'on éprouve juste avant la rentrée des classes, devant un film d'horreur, ou face à n'importe quelle situation gênante, en fait. On en a fait un synonyme du malaise. Tout est angoisse aujourd'hui. Cette sensation de resserrement, d'oppression qui passe par la sueur et par le frisson. Vous connaissez cette sensation? Et on pourrait s'en plaindre. Sauf que c'est pas si mal, en vrai, d'être angoissé. Allez, c'est le moment de vous déculpabiliser. Les existentialistes, voyez dans l'angoisse, figurez-vous, le signe et le symptôme de notre liberté. Pour Kierkegaard, autant que pour Sartre, et c'est magnifique, l'angoisse c'est un vertige. Un vertige devant tous les possibles qui se présentent à nous. C'est ce moment où on se rend compte qu'on est sommé de prendre une décision, de faire un choix, d'exprimer notre liberté. Après tout, c'est vrai que c'est plus facile de se laisser guider, hein, de se laisser faire. Se prendre en charge, en revanche, c'est une épreuve, un fardeau, un boulet. Mais je vais vous dire, chaque fois que j'entends cette expression, c'est l'angoisse, je me réjouis secrètement, pour moi comme pour autrui, je me réjouis pour aujourd'hui de la liberté qui nous est donnée. La liberté d'être angoissé aussi.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-elle des raisons d'angoisser depuis une dizaine d'années? Elle est partout, hein, à la radio, à la télé, au cinéma, dans la presse, en librairie, sur scène. C'est sur celle du Théâtre du Rond-Point, en l'occurrence, qu'on la retrouvera du 20 au 28 septembre pour son nouveau spectacle qui tournera dans toute la France. Dieu, qu'on s'en réjouit. Bonjour Nora Hamzaoui.
Mais bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci à vous, je suis très très contente.
Qu'est-ce qui vous angoisse, vous?
Ah écoute, déjà là, il y a eu quelque chose dans
une angoisse.
Une petite angoisse, rien que d'y penser. Généralement, il ne faut pas demander à quelqu'un d'angoisser ce qu'il angoisse, parce que c'est un gouffre, c'est une ouverture qui s'ouvre. Je trouve ça très intéressant de dire que l'angoisse, en effet, est rentrée dans le langage courant, et qu'en effet, dans l'angoisse, il y a la réelle angoisse, et il y a aussi quelque chose qui est plus de l'ordre du cafard ou de. Mais tout ça, en effet, moi, je trouve ça positif, parce que ça veut dire qu'on peut se le permettre et qu'on peut s'attarder, se plaindre sur des petites angoisses ordinaires. En fait.
Vous êtes angoissée tout le temps,
ah, bah,
vous.
Mais moi, je suis angoissée tout le temps, mais ça part. C'est-à-dire que le prisme est très très large, c'est-à-dire que ça peut partir de l'avenir, le climat, la politique, à ce type en trottinette qui vraiment ne devrait pas faire ça à son âge avec sa petite mallette. En plus, il va se faire mal. Et il se fait mal 5 minutes après.
Par exemple, venir ici ce matin à la maison de la radio, c'est angoissant.
C'était angoissant. Oui, il y a un truc d'angoisse parce que les gens disent ah c'est génial cette émission, ah. Je vais faire boomerang. Non mais si, pardon. Ouais. Et donc du coup, il y a cette espèce de complexe, c'est-à-dire oh là là, je suis quand même sur France Inter, faut pas que je dise beaucoup de conneries. Après, j'ai l'avantage d'en avoir dit beaucoup dans par le passé. Donc
c'est la première fois que vous venez dans cette émission et les premières fois, vous aimez ça, Nora Hamzaoui? Perdre vos repères, la nouveauté, vous adorez, non?
Les premières fois, en fait, non. Je suis pas très. Les gens parlent beaucoup de ça dans les relations, par exemple. Ils disent, le début, quand ça vibre et tout, les débuts. Moi, la première fois, j'ai souvent l'impression de mentir, en fait. J'ai l'impression que si je dois plaire, je dois pas montrer la réelle version de moi.
Quelle a été votre première fois la plus décevante?
Oula, est-ce qu'on peut rentrer vraiment de... Je suis allée dans quelque chose de très intime, évidemment.
On peut tout dire.
Ça, c'était décevant, je pense. parce que non, mais on s'en fait toute une histoire. Donc forcément, on se dit, bon, bah c'est que ça, je suis toujours la même. Voilà, j'ai toujours de l'acné, j'ai toujours des bagues. je crois que... Mais j'aime bien, la deuxième fois, c'est intéressant. Parce que même là, je pense par exemple à un sushi. Bon, ça n'a absolument rien à voir. Mais la première fois que j'ai mangé un sushi, je me suis dit non. Et la deuxième fois, je me suis dit bah oui, si.
Bah tout compte fait, hein, le petit sushi. Alors du coup, dans quelle mesure est-ce que c'est rassurant pour vous de remonter une deuxième fois et chaque soir sur scène pour rejouer le même spectacle? Ça rassure, ça?
Non, ça rassure pas, mais en même temps, c'est vraiment... Je vais répondre non à toutes les questions, pour que vous le sachiez. C'est un principe. Ça rassure pas. En fait, le fait de répéter comme ça tout le temps, enfin, je trouve qu'on n'y trouve pas une zone de confort, mais c'est aussi ce que j'aime. Je n'aime pas trop les zones de confort, parce que les zones de confort m'angoissent aussi. J'aime pas être dans quelque chose de trop répétitif.
C'est jamais le même spectacle que vous jouez?
C'est toujours quand même le même spectacle dans la mesure où il est écrit, mais j'utilise vraiment ce qui se passe. Enfin, pour moi, c'est extrêmement important le rapport à l'autre, le fait que ce soit du spectacle vivant. Et donc, je me sers franchement de ce qui se passe dans la salle. Alors, pas du tout pour interpeller le spectateur, parce que moi, en tant que public, ça me met extrêmement mal à l'aise.
Et
je sais que en tant que public, je suis capable de regarder toujours juste à côté de l'humoriste pour ne jamais croiser croiser son regard par peur qu'il m'interpelle. Donc,
ça vous est déjà arrivé ou pas?
Non, parce que je regardais ailleurs et que je pense que les humoristes que j'ai vus ont dû se dire, mais qui est cette personne odieuse qui ne sait pas où regarder et qui regarde le rideau derrière au lieu de me regarder moi? Mais je crois que c'est des trucs, c'est des vieux souvenirs d'école, en fait, d'être intimidé et qu'on nous donne la parole alors qu'on n'a rien à dire. Enfin, donc, moi, je n'embête pas mon public, mais disons que je me sers de ses réactions et je trouve qu'un rire du public à un moment donné en dit long et que on aurait tort de se priver de l'utiliser.
Ce qui est angoissant aussi, Nora Hamzaoui, c'est le deuxième spectacle, évidemment. On sait que le public nous attend au tournant. Quelle pression est-ce que vous avez ressenti, vous, pour ce deuxième seul
en scène? Alors, j'ai senti une pression qu'on m'a vite remis à ma place. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis un peu au début de mon spectacle. C'est-à-dire qu'en effet, je me suis dit, oh, il y a les gens, comme si c'était une entité, d'ailleurs, et qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi, là, qui constituaient ma petite équipe, alors que je ne sais pas qui sont ces gens.
Et donc, on est deux.
Alors qu'on est deux, et que personne ne vient me voir sur scène, alors ma famille, il y avait quelque chose de me dire, ils ont aimé le premier spectacle, est-ce qu'ils vont aimer le deuxième spectacle, et s'ils sont déçus du deuxième spectacle, alors est-ce qu'ils ont des attentes? Et en fait, on m'a très vite dit, non, mais enfin, tu sais, les gens s'en foutent, en fait, hein, donc, soit c'est bien, soit c'est pas bien, mais ça n'a rien à voir avec le premier et le deuxième.
Et ça vous arrive de vous dire que tout ça n'est pas si grave, de toute façon, de vous dire, allez, bon, je laisse couler. Non,
je suis pas du tout pour le laisser couler, je trouve que je laisse ça au fondant, au chocolat, au coulant et aux autres desserts. Oui. L'expression même me dégoûte. Et je suis pas la meuf qui laisse couler, je la connais bien. C'est cette meuf du matin qui a déjà évacué toutes ses mauvaises énergies et qui est ok pour laisser couler, on est détendu, c'est pas si grave. Moi par exemple, j'ai une livraison d'Arty, on me dit que ça va arriver entre 7h et 13h, à 13h05 je suis déjà très en colère. Et en plus ça va arriver à 17h, donc au moment où j'ai décidé de sortir de chez moi, en me disant ils viennent plus.
Moi
donc,
je vais vous dire ma théorie, Nora Hamzaoui, c'est que vos angoisses, elles nourrissent votre travail en fait, que sans vos angoisses, vous n'écririez pas. Dans quelle mesure est-ce que vous avez tout intérêt à les garder, vos angoisses intactes, et même à les entretenir?
Moi je suis pour mais je pense que pour autant j'estime que c'est pas de la thérapie, mais je pense qu'en effet moi ce qui me fait rire et le moteur de mon écriture, c'est toutes les situations qui me mettent en difficulté. J'aime bien me servir en effet de souffrances petites ou plus grandes, ça peut être des ruptures amoureuses comme des choses où on se sent pas à sa place dans un cadre social donné, et j'aime utiliser ces difficultés pour pouvoir prendre du recul, mieux les digérer et mieux en rire. Donc et ça, il y en aura toujours en fait, au fur et à mesure de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, est-ce qu'à un moment on est guéri parce qu'on a fait une thérapie, parce qu'on a trouvé la sérénité, parce que je sais pas quoi? Non, parce que la vie évolue toujours et qu'on est toujours face à des gens qui nous renvoient un miroir de nous-mêmes qui est pas celui qu'on aimerait. Donc
qu'est-ce que vous aimez le plus chez vous?
Je peux dire mon métier?
Ah bah oui, bien sûr, voilà. Vous pouvez dire vos chevilles aussi.
Mon métier.
Votre sens de l'empathie, moi je me disais, parce que ce qui frappe dans les histoires que vous racontez sur scène, c'est cette tendance presque pathologique que vous avez de vous mettre à la place des autres. Ça se manifeste comment, ça, dans la vie de tous les jours, Nora Hamzaoui?
Je me le formule pas, je le sais pas concrètement, mais je sais qu'il y a un truc. Après, l'empathie, ça peut être un problème aussi, parce que parfois on se met à la place de quelqu'un et on souffre plus que lui ne souffre. Donc je peux aussi être la personne relou qui est là, c'est affreux, la pauvre, et la personne, non mais en fait je vais très bien. Donc mais je sais que j'ai toujours eu une tendance dès mon plus jeune âge, mais qui est aussi un peu malheureusement du narcissisme aussi, mais quand quelqu'un me racontait quelque chose, qui l'embêtait, j'aimais bien lui raconter que j'avais vécu pire pour le rassurer. Donc à la fois ça me permettait de parler de moi, c'est pas étonnant vu le métier que je fais, mais aussi
Donc dans quelles circonstances est-ce que vous dites pardon tout le temps de façon compulsive?
Je l'ai fait beaucoup là?
Non, pas encore, je sens que ça va venir.
Non mais je dis pardon, non mais c'est hyper chiant, moi je dis pardon quand on me bouscule, donc c'est vraiment insupportable, et en plus après je m'énerve, donc je m'énerve parce que je m'en veux d'avoir dit pardon, je m'excuse beaucoup, oui.
C'est-à-dire que le problème c'est qu'à force de dire pardon tout le temps, on va finir par croire que vous avez effectivement quelque chose à vous reprocher. Ce sentiment de culpabilité chronique, il vient d'où, à votre avis, Nora Hamzaoui?
Je sais pas, c'est une vraie question. Je sais rien, qu'est-ce que j'ai?
De quoi vous sentez-vous coupable?
Mais je crois que le pardon, c'est un réflexe. Je pourrais éternuer, ce serait pareil. J'ai juste l'impression de pas... J'ai toujours l'impression d'être légèrement à côté, en fait. Et donc, je pense que je m'excuse d'être pas complètement dedans. Mais de la même manière qu'on peut, je pense, parfois, on est dans une situation, on a un dîner, on a un truc, et en fait, on voit la situation de haut. Et il y a des moments où on essaye d'échapper à ce regard qu'on a sur nous, donc on tente la spontanéité, on dit une grosse connerie, puis on dit pardon.
Culpabilité quand même, qui me semble être partout chez vous. Quelle est la chose la plus honteuse que vous ayez faite dans votre vie?
Comme si j'allais le dire là.
La chose que vous vous reprocherez jusqu'à la fin de vos jours. La chose qui fait de vous une coupable?
Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
L'invité qui panique. Tôt, pourquoi je suis là pour dire ça? Je suis triste. Non, je sais pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi on culpabilise?
Ben, ça a quelque chose à voir avec l'angoisse et la liberté pour les existentialistes, non?
Ah bon? Non, mais moi j'ai vu un psy pendant des années, il m'a jamais fait aborder ces questions-là, donc je me pose des questions en fait.
Celle qui est coupable dans cette émission, je pense que vous la connaissez.
C'est lui? Non, la mère?
Non, c'est la culture.
Ah bon?
Et son actualité, peine à perpétuité, travaux forcés, chaises électriques, que se passe-t-il donc? Aujourd'hui, mercredi 18 septembre.
On change pas, on met juste les costumes d'autres et voilà.
Elle ne change pas, Céline, et c'est pour ça qu'on l'aime. Après 15 ans de résidence à Vegas, la diva québécoise repart aujourd'hui en tournée à travers le monde. Alors que son nouvel album Courage est attendu pour novembre, la chanteuse montera sur scène dès ce soir, chez elle, à Québec, avant d'enchaîner près de 40 dates dans toute l'Amérique du Nord. Pour la voir en France, il faudra attendre le 2 juillet, son concert prévu à La Défense. Céline, qui s'est mise récemment à la danse, promet un show spectaculaire et flamboyant, tremble Beyoncé.
Ouh, mes premiers films, j'écrivais pas de scénario. Mais du tout, j'allais sur le tournage avec zéro écrit, même pas un cahier qui aurait remplacé un scénario.
Gare au Garel, la Cinémathèque française propose dès aujourd'hui une grande rétrospective consacrée à l'œuvre du réalisateur français, héritier de la nouvelle vague, Philippe Garel. Au programme, la projection d'une trentaine de ses films, dont Les Incontournables, Amant régulier, L'Amant du jour, La frontière de l'aube. Une leçon de cinéma aussi le samedi 5 octobre, donnée par Garel en personne. L'occasion de parler de contestation, de lumière, de passion, tout bon. Hier, les Premiums Impérialés 2019, genre de prix Nobel des arts, ont été révélés par la Japan Art Association, la plus ancienne institution culturelle du Japon. Parmi les 6 lauréats de l'année, on trouve notamment le peintre sud-africain militant anti-apartheid William Kentridge, la violoniste allemande prodige Anne-Sophie Mutter, ou encore l'acteur légendaire du théâtre kabuki japonais Bando Tamasaburo. Enfin, seul français dans la liste, le projet Demos, qui œuvre à initier les jeunes des zones défavorisées à la musique classique, a reçu le prix de l'encouragement jeune artiste, et ça c'est chic. Enfin, mercredi d'angoisse, c'est au ciné que ça se passe, car aujourd'hui, dans les salles, on s'embrase, évidemment, pour le portrait de la jeune fille en feu, chronique lumineuse d'une passion saphique, primée à Cannes, et signée Céline Sciamma, qui était notre invitée lundi. On s'envoie en l'air avec Ad Astra et Brad Pitt dans la nouvelle livraison spatiale de James Gray. Sinon, on reprend une tournée de Chardonneret, adaptation élégante du best-seller de Donatarte, orchestré par John Crowley. Olé. Et la comédienne Nora Hamzaoui, invitée de Boomerang ce matin pour son spectacle très sobrement intitulé Nora Hamzaoui, comme ça il n'y a pas de malentendu possible, on est d'accord. Un spectacle dans lequel vous évacuez complètement la question de l'actualité, contrairement à nombre de vos confrères et consoeurs humoristes. Et c'est quand même assez intéressant. Pour quelle raison?
Alors juste, c'est pas pour évacuer la question, mais pendant tout le passage sur la culture, j'ai repensé à la culpabilité, parce que du coup ça m'a travaillé. Et je pense que ça a à voir avec la paranoïa.
Ah bon?
Bah oui, parce que je pense que quand on pense que les gens nous en veulent, on a envie de s'excuser. Mais bon, bref, alors pourquoi c'était...
Pourquoi pas d'actualité?
Bah parce que je trouve ça hyper anxiogène, mais que pour le coup, je n'arrive pas à le transformer. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, j'aime bien parler, je pratique un humour d'autodérision, et j'aime bien me moquer de moi-même et de mes failles et de situations personnelles pour mieux évoquer ma perception du monde. Et pour moi, l'actualité, c'est quelque chose qui est extrêmement distant, qui est loin, qui n'est pas dans quelque chose de personnel, et c'est aussi quelque chose qui est dans l'instant, qui est... Moi, j'ai vraiment besoin de digérer une situation pour mieux en parler, pour mieux en rire. Et là, ça ne me fait pas rire parce que c'est trop direct.
Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une forme de résistance chez vous à cette injonction qui voudrait qu'on ait un avis sur tout. Sur quoi est-ce que vous n'avez aucun avis, Nora Hamzaoui?
Le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir un avis sur tout et son contraire. C'est-à-dire que j'affirme beaucoup de choses et j'ai l'impression que 3 minutes après, je pourrais complètement me contredire. Mais...
Alors du coup, comment vous faites, par exemple, quand vous êtes invité à un dîner chez des gens comme il faut et que devant un gazpacho de courgettes au brochu, les convives se mettent à parler de politique, se mettent à parler du monde?
Eh ben, je mange et comme ça, j'ai tout le temps la bouche pleine et je peux commenter avec des petits bruits et je dis des petites bribes de choses sur l'actualité. Ah bah, c'est vrai que ça va pas s'arranger. Ah bah, c'est inquiétant. Ah bah, c'est sûr que... tout ça en bouffant.
Et puis, vous avez toujours la possibilité à un moment donné de dire que c'est la faute d'Internet.
C'est de la faute d'Internet et qu'il y en a une qui me répond non, c'est de la faute de l'usage. fait d'Internet.
Qu'est-ce que ça fait, ça?
Bah, ça fait qu'elle me traite comme une petite truie. C'est-à-dire que tout à coup, cette personne m'infantilise. Je vais donner un point de vue sur une situation. Je vais dire que tout ça, c'est à cause d'Internet. Parce que c'est vrai qu'Internet et les réseaux sociaux m'angoissent. Voilà, je trouve que c'est quand même responsable. Enfin, bon, ils sont responsables de plein de choses négatives. Il va y avoir cette personne qui va vouloir me reprendre. Je trouve que les gens qui reprennent, ça aussi, c'est agaçant. Non, les gens qui vous reprennent, parce qu'ils savent très bien. Mais même nous, on sait qu'on n'a peut-être pas forcément utilisé les bons mots. On n'a pas besoin d'un donneur de leçons là à côté. Et en quoi elle me fait sentir comme une petite truie? C'est que tout à coup, elle s'élève, elle tente de m'élever et elle me corrige comme si elle me donnait des graines qu'elle me nourrissait et que moi j'étais dans une sorte de porcherie. Enfin voilà.
Alors quel usage, est-ce que
l'usage
vous faites d'Internet, vous?
Bah, moi j'en fais, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est ce que je disais quand je dis je critique, j'affirme quelque chose, je le contredis après. C'est-à-dire que moi, typiquement, les réseaux sociaux ou Instagram, voilà, je suis la première à critiquer, à trouver ça épouvantable, et en même temps, j'ai toujours l'envie d'en être, quoi.
Oui. Vous vous souvenez de l'époque où ça n'existait pas?
Bien sûr.
En 1996.
Ouais, bah ouais.
Bah ouais, vous aviez 11 ans. C'est une archive de l'INA, de ce temps-là, que vous avez souhaité partager avec les auditeurs de Boomerang.
Qu'est-ce que c'est qu'Internet?
Internet? Oh, je
un
sais pas.
Système informatique de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information.
Voilà. Vous voyez, il est intelligent, mon copain.
C'est des boîtes à terrible. La publicité.
C'est un programme qui permet de savoir un peu tout.
Internet, c'est le nettoyage.
Internet? Ah bah, je sais pas ce que ça veut dire.
Inter quoi?
C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. Internet!
Ouais.
Ben... Ben, je sais pas.
1996, qu'est-ce que ça vous évoque, cette archive, Nora Hamzaoui?
C'est, en fait, je trouve ça vertigineux parce que moi, je me disais que déjà, quand nous, on était petits et qu'on nous expliquait que nos parents ou quoi avaient connu la télé en noir et blanc et que le choc de la télé en couleur, je me disais, non, mais ok, c'était des hommes préhistoriques, c'est pas possible. Et en fait, nous, il y a eu des changements d'usage, comme dirait l'autre. Non, mais c'est-à-dire que ça a changé nos comportements.
On a perdu notre innocence, disons les choses clairement.
En fait, je trouve ça assez effrayant, quoi. Je trouve ça assez effrayant de voir à quel point ça a modifié nos comportements et je pense notre rapport au monde, notre rapport à la temporalité et aussi à l'angoisse. Le fait de pouvoir avoir un accès à l'information tout le temps, mais à l'information comme aux autres, savoir où ils sont. Enfin, voilà.
Est-ce que vous aimeriez avoir 11 ans aujourd'hui, justement, être né dans un monde où vous n'auriez jamais connu le monde d'avant Internet, d'avant les réseaux sociaux?
Bah, dans la mesure où j'ai fait un enfant, je vais pas dire non parce que sinon je me dirais ça n'a aucun sens. Je pense que toute expérience est bonne à vivre et je veux surtout pas être une vieille conne, enfin qui pense que
ça pourrit votre vie, Internet, Nora Hamzaoui.
Non, ça pourrit pas ma vie parce que je pense qu'il faut savoir prendre ses distances. Mais en revanche, je trouve que ça abîme quelque chose, ça enlève une esthétique aux choses, ça enlève une certaine forme de romantisme. Je sais pas si c'est le bon mot, mais
Et de confiance en soi, hein. Vous parlez de cette société du like, ce monde où on traque l'assentiment, l'approbation, tout le temps.
Je trouve que c'est problématique que ça provoque des émotions dans le bien comme dans le pas bien. C'est-à-dire qu'avant je me plaignais beaucoup, par exemple, d'aller regarder les commentaires négatifs, de regarder sur Twitter, sur les réseaux sociaux si les gens m'aimaient ou pas. Enfin, et je ne tenais en compte que du négatif en me disant que c'était voilà, et je souffrais de ça. Et en fait, aujourd'hui, je trouve ça aussi grave, en fait, d'être flatté par un like, ou par un emoji flamme, ou par un trop belle. Et la réalité, c'est que quand il arrive, ça fait plaisir. Trop belle. Tu peux, voilà. Je veux dire, évidemment qu'on va tous essayer de poster la meilleure version de soi. Et ce truc-là est un mensonge à soi-même. Et en même temps, c'est, enfin, je sais pas, c'est un peu ce qu'on appelle de se réinventer. Le fait de se réinventer comme ça, pour moi, est très effrayant.
Mais jusqu'où vous seriez prête à aller pour récolter des likes sur votre page Instagram?
Pas grand chose. À mentir sur un selfie, à faire croire que j'ai cette tête-là, alors que je sais très bien que j'ai pas cette tête dès qu'elle bouge, mais pas grand chose parce que ça me...
À poster des chats aussi, non?
Ah bah, poster des chats,
bah ah bah
ça...
Ouais.
Mais mon chat est extrêmement...
C'est-à-dire que moi, je me suis demandé,
Quand si même. Quoi, si je faisais ça pour avoir des likes.
Si c'était vraiment votre chat, surtout si ça faisait pas partie d'une stratégie de communication personnelle, vous l'aviez simplement emprunté à un ami pour avoir des likes.
Ce serait terrible, je le loue.
Comment vous expliquez qu'une photo avec ou de votre chat ait le plus de likes qu'une photo de vous,
moi,
ou une photo vous apparaissait seule, ce qui, on va pas se mentir, est injustifié et choquant.
Est-ce que vous voulez me vexer, Augustin?
Non, pas du tout, c'est une question.
Vous me mettez face à quelque chose. Comment ça se fait que ton chat est plus liké que toi?
C'est pas moi.
Mais ce n'est pas étonnant quand on voit que les gens sont contents d'avoir je sais pas ce que c'est que cette espèce de filtre chien quand il tire la langue, ça fait des oreilles de chien. Bon, bah voilà, on est tous devenus des animaux, je sais pas quoi vous dire.
Vous le faites, vous, ça?
Non, c'est ma limite. J'ai vraiment. Mais je crois que ça, c'est sur Snapchat. Et en l'occurrence, je n'ai pas Snapchat parce que j'aurais l'impression d'être. Déjà, quand je l'ai dit, j'ai un peu bafouillé. Enfin, vraiment, je peux pas faire ça.
Moi, j'ai envie de douceur ce matin. J'ai envie de gentillesse, de câlin, de bienveillance, de retomber un petit peu en enfance, de mieux vous comprendre aussi, Nora, d'être peut-être un petit peu comme vous. I wanna be like you. Louise Prima. C'était en 1967 dans Le Livre de la Jungle. Vous êtes sur France Inter avec Nora Hamzaoui. Vous écoutez Boomerang.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo. I wanna be like you,
hop-de-ooby-doo.
I wanna walk like you,
cheep,
talk like you,
choo-choo.
You see it's true,
shoo-ba-dee-doo.
An ape like me,
scooby-dooby-dooby,
can learn to be human too. Desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Non, j'ai pas choisi le livre de la jungle pour rien. On est, et c'est assez sidérant d'ailleurs, quelque part entre Mowgli, Nana Mouskouri et Dora l'exploratrice. Elle a l'air sympathique, farouche, un brin barbouillé d'un petit dôme, la lunette papillonnante, mouskourienne à souhait, le regard embrumé mais pétillant de Dora, le cheveu un brin endormi, imprévisible, inattendu, insondable, avec son petit pull marin plein d'embrun. Ce matin, la comédienne Nora Hamzaoui, invitée de Boomerang pour son nouveau spectacle. 10 ans se sont écoulés entre votre premier seul en scène et celui-ci. En quoi est-ce que vous avez le plus changé, tiens?
10 ans? Bah oui, entre le tout premier, oui, sans doute, en début de... ce qui a changé le plus... Je saurais pas dire.
Bah moi, j'ai l'impression que vous êtes moins farouche.
Ah bon?
Vous êtes plus sociable, vous arrivez à parler à des gens que vous connaissez pas.
Ah bon?
Vous
n'étiez pas comme ça avant?
J'ai pas, non.
Ah ouais?
Non.
Voilà, vous m'en apprenez, c'est terrible.
Vous avez tendance à parler beaucoup, à parler plus aux gens?
Non, pour recommencer comme en début d'émission. Je ne sais pas, je ne crois pas. Enfin, peut-être. Oh, c'est débile, je suis incapable d'apporter.
Je me dis qu'avec l'âge, on est mieux dans notre peau,
enfin,
on est plus sage.
Et tout, je trouve qu'il y a plein de trucs là, de salauds, là, entre avec l'âge et le « on préfère votre chat ». Non, il y a peut-être... je ne sais pas, peut-être que... Peut-être que je dédramatise un peu plus les choses. Et que peut-être les choses sont un peu plus légères. Peut-être, mais je ne suis pas sûre, hein, vraiment. Là,
parce que vous avez pu être dans une certaine forme de lourdeur, plus jeune.
Ah bah oui, complètement. Ah bah, je trouve que, par exemple, l'adolescence est un âge extrême, enfin, une partie de la vie qui est extrêmement chargée. Je pense que, oui, je pouvais... des choses pouvaient me ronger. Oui, je pense que j'étais un peu plus sombre et chargée émotionnellement à une époque.
Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette adolescence, Nora Hamzaoui?
Bah, je pense de la tendresse. Je pense que typiquement, il y a un truc qui vient après l'adolescence où on rejette l'adolescent qu'on a été. Et puis, en effet, avec le temps et avec l'âge, on commence à accepter certaines choses et à mieux les comprendre avec la distance. Ce qui est presque le même processus d'ailleurs qu'un spectacle. Quand je disais, on digère des douleurs et après on en rit, on en parle peut-être un peu de tendresse. Et puis.
Et dans quel genre de vie est-ce que vous vous projetiez à l'époque? Dans quoi est-ce que vous projetiez?
Je dois dire que je me projetais dans pas grand-chose. Je savais juste que je voulais m'amuser, ce qui est quand même assez limité. Quand on doit faire des études et tout, je savais que j'avais envie, enfin j'avais une sorte d'urgence à faire des choses qui me plaisaient, à raconter des histoires. J'avais envie de, enfin je me disais que j'avais peu de, j'étais un peu du mal à faire des compromis et qu'il fallait absolument que je trouve. J'étais obsédée par la liberté. J'ai très vite voulu être indépendante financièrement. J'ai commencé à travailler très jeune parce que je voulais me payer un loyer. J'avais aucune notion après de l'argent. Je pensais qu'on pouvait se payer un loyer en travaillant dans une boutique comme ça le week-end. J'ai très vite compris que non. Donc, en tout cas, pas à Paris. Mais bon, on va pas commencer à parler d'immobilier, n'est-ce pas, Augustin? Mais j'avais très envie d'être adulte en fait quand j'étais enfant.
De changer de corps aussi, parce que le corps est très important chez vous, dans votre spectacle, vous l'évoquez sans cesse. Pourquoi est-ce qu'il vous obsède autant?
Parce que je pense que ça c'est un truc lié un peu à mais je m'en amuse aussi. C'est une manière à la fois aussi de dédramatiser ce qu'on nous fait porter. Enfin, cette espèce de à la fois, moi, je donne le droit. Je pense qu'il faut absolument revendique le droit au complexe. Je trouve que là, justement, cette société un peu instagrammable, on nous fait croire. Enfin, il y a cette espèce de truc hashtag no make-up. On doit tous s'accepter, on doit tous s'aimer. Ce n'est pas mal, en fait, d'être complexé. Je veux dire, s'aimer pour moi, c'est aussi rire de ses défauts et les accepter. C'est pas les prendre en photo et mettre...
C'est en parler aussi,
ouais,
j'ai
c'est
l'impression.
C'est en parler, exactement.
Chez vous,
ouais.
Parce que ça, c'est un truc que vous adorez, parler.
Bah ouais, j'adore parler.
Mais
ouais,
mais au risque de vous emporter, comme ça, dans des digressions sans fin, et que la personne qui écoute, pourtant d'une oreille attentive, perd totalement le fil.
Mais oui, mais parce qu'en même temps, une digression, ça correspond à la manière qu'on a... On a toujours besoin de digresser, on a toujours besoin de passer d'un point A à un point B. J'ai toujours l'impression d'avoir rencontré des gens qui voulaient faire quelque chose et qui sont arrivés complètement à autre chose et qui savaient pas pourquoi ils en étaient arrivés là. Et j'aime bien qu'on ne sache pas pourquoi on en est arrivé là. J'aime bien que les choses nous échappent. J'aime pas que ce soit construit, que les gens disent « je voulais faire ça, donc j'ai fait une école de ça » et puis après il s'est passé ça. Ça m'ennuie terriblement. Et puis les digressions, c'est l'équivalent aussi d'Internet. C'est l'équivalent d'un nouvel onglet sur une page Internet, d'une fenêtre sur un écran, d'une fenêtre sur le salon des voisins d'en face parce qu'on se fait chier à un dîner. C'est une porte de sortie, c'est une porte de sortie de l'outlook de son bureau vers voyagesncf.fr, qui s'appelle d'ailleurs maintenant, oui, SNCF. C'est une digression, c'est comme un voyage, c'est un peu une fuite aussi finalement. D'ailleurs, on le sait très bien que c'est comme une fuite quand ton mec rentre du boulot et qu'il est là en train de te dire, j'ai passé une journée de merde, mon client est complètement con, il nous envoie une proposition, il avait pas vu de budget, du coup après il s'étonne, il nous reproche de surfacturer, mais le mec il sait très bien qu'on lui a envoyé un devis, mais il le regarde pas le devis. Et toi t'es là. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, t'as acheté une bouteille de vin ou pas? Bah, que dalle, ça t'a fait penser. T'as digressé, tu as fui, porte de sortie. Après, faut dire que, en réalité, Augustin, moi, j'ai un énorme, on a un vrai problème avec mon caviste, puisque je peux plus le blairer, je me permets d'en parler. Du coup, j'ai décidé que je voulais que ce soit mon mec qui y aille. Et d'ailleurs, c'est une dynamique de couple assez banale, après un certain nombre d'années, comme ça, de relations. En gros, tout ce qui te fait chier, eh ben, tu le délègues à l'autre. Mais tout. Donc, au début, t'appelles ça la répartition des tâches, et puis, petit à petit, t'es là, je veux plus t'entendre dire, je vais le faire. D'accord? Donc, je veux que tu le fasses, et maintenant. Voilà. On est très heureux. Le problème avec mon caviste, c'est que je me faisais complètement entuber, mais parce que il a complètement le sens de la digression, lui aussi. Tu viens chercher une bouteille de vin et là, je te fais goûter ma petite cope, c'est une tuerie. Donc sa petite cope, comme il l'appelle, cette charcuterie corse que nous tous, on appelle copa.
La copa.
Voilà, la copa. Mais que ce mec du 11e qui a passé un mois en stage de charcuterie corse appelle de la cope et puis me dit ça sur un petit ton de mec sec et tatoué. Ambiance, j'ai une barbe de 3 jours, j'hésitais entre mannequin et caviste. Et puis comme je suis pas assez allé au club Mad Gym, j'ai choisi caviste. Je peux plus, quoi. Donc sa cope, qui se dit en 300, coûte une blinde, mais comme il te l'a posé sur la langue, ambiance hostie, t'as pas osé dire non. C'est chiant d'ailleurs ce truc de commerçant, je trouve, à te faire goûter des trucs gratos pour mieux te faire passer pour une vieille pince si tu prends rien. Parce que c'est ça la réalité systématique. À chaque fois que tu goûtes un truc, t'es là, bon, allez-y, mets-en 3 tranches. T'en veux pas, t'en voulais pas. Bref, pour en revenir au caviste, j'en ai eu ras-le-bol de ramener, tu vois, à chaque fois de la charcuterie à chaque bouteille de vin acheté. Mon mec aussi, ça n'a aucun intérêt. D'autant plus qu'on est devenu végétarien. Donc, pas complètement végétarien, mais franchement presque, comme tout le monde d'ailleurs, hein, toutes les soirées où tu bouffes de la viande, tu fais une côte de bœuf, tout le monde fait son coming out végé, je fais encore ce geste là végé, là je peux plus, j'ai fait les guillemets avec mes doigts, je m'en excuse, mais heureusement on a la radio. Mais c'est systématique, les gens sont là, bah, nous on mange plus de viande, on mange plus, vous en mangez, vous en cuisinez encore, voilà, mais sinon nous on en mange plus, une fois par semaine parfois, j'avoue, mais franchement on en cuisine plus. Bref, on est tous en train de s'enfiler une côte de bœuf et on est tous végé, ça aussi ça me fatigue. Et puis le mois dernier, dernière visite chez le caviste, le mec est pas là, donc je me fais servir par une meuf, donc je me dis très bien, je vais pas me faire entuber, je vais uniquement prendre ce dont j'ai besoin. Et sauf que je voulais du champagne, j'avais quelque chose à fêter, j'étais ravie. Et donc je lui demande si elle a du champagne au frais. Et là, donc elle regarde cette chambre d'enfant et là elle me répond, j'en ai pas au frais, des os. Des os? Non mais on est où là? C'est quoi ce mélange des genres? Des os? Non mais moi je viens acheter du champagne, respecte-moi. À la limite, je viens acheter un petit petit en nature, je te fais sentir qu'on est toutes les deux de la ligue des antisulfites, à la limite, encore. Je veux dire, moi à l'inverse, je ne me permets pas ce genre de choses. Au restaurant, quand le serveur me demande si j'ai fait mon choix, je suis pas là. Non, je l'ai pas fait, des os. Non, on est où là? Je ne supporte pas ça, c'est vraiment typique de l'époque. Payer une blinde pour être servi comme de la merde. C'est comme l'autre connard avec son commerce de bouche hybride là. Je peux plus, je vais faire ça, hop, ça y est, je me suis giflé, j'avais dit que si je leur faisais un giflé, je me suis giflé, je l'ai refait les guillemets avec mes doigts. Il est là avec son épicerie, sa poissonnerie, je crois que c'est la Fashion Week, juste parce qu'il vend des sardines à l'huile et des bougies dans un décor blanc. Non, mais moi ça je peux plus. Et pendant qu'il t'écaille ta dorade et qu'il la vide, toi t'es là, ambre noir, musc, je n'en peux plus des mélanges de genre, je n'en peux plus des sardines à l'huile, je n'en peux plus non plus. Celle qu'on te sert dans les restaurants poissonneries, là. Une bonne fois pour toutes, c'est parisien, c'est juste con de commander des sardines à l'huile au resto. Les sardines, elles arrivent en plus servies par une meuf qui te sourit même pas. En même temps, la pauvre, elle est botoxée, elle peut plus, donc c'est pas de sa faute. Elle arrive pas, elle te pose la conserve. Non, mais moi, je vais t'en ouvrir un de resto, je te fous une burrata à côté, une boîte de thon petit navire, comme ça, sans même vider l'eau, je vide pas l'eau, t'en fais des shots, ça fait des oméga 3, comme ça, je gicle partout de l'huile de truffe, là, et je te fais payer 100 balles. Après, vous m'instagrammez cette merde, là, vous payez l'addition et vous rentrez tous chez vous en trottinette. Ça me fait chier, quoi! Après, ça me fout des angoisses, ça. Je veux pas plomber l'ambiance, Augustin, mais ça me fout des angoisses. Comme quoi, tu vois, on en parlait en début d'émission, l'angoisse, on y revient toujours. Et finalement, si on digresse, eh ben c'est aussi pour oublier ça.
Waouh, Nora Hamzaoui, oui, merci tellement d'être venu faire un tour dans cette émission. C'était un art poétique, cette grande digression de fin d'émission. Je rappelle que votre spectacle, Nora, est au théâtre du Rond-Point du 20 au 28 septembre, puis en tournée dans toute la France, à Nantes, Lyon, Le Mans, Dijon, Grenoble, Angers, Lille, Strasbourg, Besançon, Toulouse, sans oublier quelques petits retours à la République, à Paris notamment. Je précise aussi que vous êtes à l'affiche du très bon film de Nicolas Parézère, Alice et le maire, que je conseille à tous les auditeurs de France Inter.